Bonjour à vous toutes et vous tous, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois au micro de Canal M pour vous présenter l'émission Le National. Vous le savez maintenant, c'est cette émission qui vous permet d'entendre ou de réentendre peut-être des entrevues qui vous ont semblé rayonnantes, encourageantes, enthousiasmantes. Alors on va commencer tout de suite, je vous le propose, par un sujet moi qui me tient particulièrement à cœur parce que c'était dans le cadre de l'émission Aime la vie, le 6 novembre dernier, j'ai fait connaissance avec une jeune femme absolument extraordinaire qui s'appelle Samuel, ça s'écrit S-A-M-U-E-L. Il n'y a qu'un seul elle, et elle a présenté un spectacle au coup de cœur francophone, et c'est un spectacle tout à fait original qu'elle a présenté puisqu'elle était accompagnée d'interprètes en langue des signes du Québec, donc en LSQ. Et vous allez l'entendre, d'une part une chanson qu'on peut retrouver sur vidéo où l'on peut voir ces interprètes-là, et ensuite l'entrevue enchaînée directement après La Révolte qu'on écoute tout de suite. La jeune femme dont on vient d'entendre la chanson qui s'intitule « La Révolte » et la jeune femme en question est auteure-compositeur-interprète. Elle s'appelle Samuel. Bonjour Samuel.
Bonjour Clotilde.
Elle est en studio, je suis tellement contente de la recevoir. Vous savez, quand je pense à vous Samuel, quand j'écoute cette chanson-là, quand j'écoute celle de votre premier album aussi qui est sorti là en 2017, je me dis, oh, ça, c'est la bébête qui monte, qui monte, qui monte. Vous connaissez la chanson, c'est la bébête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. C'était
non.
une petite chanson enfantine.
Non.
Bah, c'est une petite chanson enfantine pour dire que c'est quelqu'un qui monte, qui monte, qui monte, comme ça, au
ça
sommet
finit
de
comment, cette chanson-là?
Ça finit bien.
Ok, cool.
Bon, en tout cas, oui, oui, mais ça finit beaucoup plus tard. Alors, okay. Non, non, elle monte, elle monte, elle monte. Et je me disais, je revoyais les images de la disque mm-hmm. cette année. Je ouais. revoyais Claude Pelgag disant, dis donc, en 20 ans, je pense que je suis la première. Je me suis dit, ben, l'an prochain, ça va être l'année Samuel.
Ah ouais?
Ça moi, j'y crois. Moi, j'y crois.
Ah, ok, tant mieux. Moi, c'est pas pour ça que je le...
Non, je le sais, mais pour vous présenter, c'était ce que j'avais envie de dire. Okay. Parce qu'il y a une réelle, il y a une plume, il y a une personnalité... Il y a la musique, vous êtes multi-instrumentiste, vous pouvez ouais. remplacer à peu près tout le monde sur scène quand ouais, vous n'avez ouais. pas les moyens d'avoir des musiques, bah, ou
oui,
presque.
Oui, oui, je suis capable, de, je joue pas aussi bien là, que les gens dans mon band, mais je suis capable de
ouais, jouer. Oui, je suis capable.
Je suis capable.
Samuel, effectivement, on vous a invité pour une raison bien précise, c'est que vous allez tenter, bah, c'est plus que tenter, de vous lancer dans une aventure que personne n'a faite avant vous, c'est-à-dire de faire un show complètement... totalement, intégralement, signé en ouais. langage des signes québécois, ce qu'on ouais. appelle en LSQ.
Ouais.
Quelle idée!
Ouais, je sais.
Ça vient d'où?
Aïe aïe!
Aïe aïe!
Non, mais c'est parce que...
Vous attendiez pas du tout, est-ce que je vous demande ça?
Non, non, mais en fait, c'est que quand l'idée est venue, ça me semblait si simple, puis finalement, ça a été une aventure assez complexe. Mais l'idée m'est venue, en fait, d'abord, je réfléchis beaucoup sur l'accessibilité en général. C'est déjà une réflexion qui m'habite depuis longtemps. Je pense que c'est important de réfléchir. Je pense que quand on n'a pas accès à des choses pour des. Tu sais, avoir un handicap physique ou machin, ça t'empêche de. Je comprends pas, en fait, là, qu'on pense pas à ça collectivement, qu'on mette à l'écart des personnes de notre communauté sous prétexte qu'ils n'ont pas les mêmes habiletés que nous. Moi, ça me gosse vraiment beaucoup. Fait que c'est déjà la chose à laquelle je réfléchis déjà beaucoup. Mais l'accessibilité économique aussi, c'est très, très large, l'accessibilité. Fait que quand il y a une personne sourde qui est venue me voir après un spectacle pour me dire, tu sais, il y a personne qui traduit ses shows à l'SQ, ça serait le fun, il y a toute une communauté qui aimerait vraiment ça, puis qui, tu sais, qui demande juste ça, pouvoir sortir de chez eux puis aller voir des shows aussi. C'est juste que, tu sais, il y a personne qui le fait. Puis elle m'a dit, elle m'a parlé de son expérience, puis ça, ça a juste résonné vraiment avec déjà ma réflexion. Fait que j'ai une petite équipe de prod, fait que j'étais allée voir mon équipe de prod, j'ai fait, moi, je veux faire ça. Je veux qu'on traduise les trucs. Puis en fait, comme, mais c'est pas possible tout de suite. Mais je dis, mais aussitôt que c'est possible, je veux qu'on le fasse. Puis j'ai un peu martelé ce truc-là. Puis c'est arrivé. Puis là, dans les coups de cœur francophones, c'est un festival qui aime beaucoup présenter des spectacles qui sont uniques.
Oui.
Fait qu'il fallait trouver quelque chose qui sortait de ce qu'on fait d'habitude pour ce spectacle-là. Fait que là, c'est ça qui est venu en premier. Ben, c'est l'occasion de faire ce travail-là d'interprétation.
Puis, qu'est-ce qui a été si difficile que ça?
Ça a été difficile de trouver des gens.
Sûrement.
Pour faire l'interprétation. La première personne avec qui j'ai commencé à travailler finalement a quitté le projet. Je me suis retrouvée vraiment dans des délais vraiment très petits pour trouver quelqu'un. Finalement, j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré Annick et Marie-France qui sont... Ils font partie de la famille maintenant. Là. Ça a vraiment été... ils ont vraiment... C'est parfait finalement que je rencontre eux autres. Mais après ça, c'est aussi... C'est que veux, veux pas, moi, je vis pas la réalité des personnes sourdes. Il y a beaucoup de choses qui étaient dans mon angle mort. J'avais pas pensé qu'il fallait...
Belle expression.
Ouais, ben c'est ça, tu sais, c'est comme, c'est ça un peu le danger d'essayer de faire quelque chose pour une communauté qui est pas la tienne, tu comprends pas toutes les réalités, fait que là, je me suis fait, tu sais, je me suis... Ben pas critiquer, mais oui, critiquer, juste comme, t'as oublié ça, puis j'ai fait, ok, oui, c'est vrai, j'ai oublié ça, on va le faire. Fait que ça a été un projet...
Comme quoi, par exemple?
Comme réserver une section pour les personnes sourdes pour qu'ils soient sûrs de bien voir les interprètes.
Bien sûr.
Puis aussi faire traduire l'autre spectacle, parce qu'on est jumelés avec un autre band, tu sais. Puis moi, j'ai focusé sur mon show à moi, de faire traduire mon show à moi, mais j'avais pas pensé que c'était...
Bien sûr.
L'autre show avant, il sera pas traduit. C'est un peu de la merde, tu sais.
Ben oui.
Fait que là, quand ils m'ont dit, tu sais, c'est un peu de la merde que l'autre show soit pas traduit, je fais, oui, t'as raison, c'est un peu de la merde. Fait que là, c'est approcher l'autre prod, faire, tu sais, que ça serait le fun, que machin. Puis là, les mettre en contact. Julie Aubé.
Julie Aubé.
Des Hey Babies.
OK. Oui.
J'adore beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Puis je suis contente. Puis elle était comme, aussitôt que j'ai proposé l'idée, elle a embarqué. Puis l'équipe de prod, tout le monde a embarqué super vite. Là. Ça peut être. C'est quand même. Plus de travail que je pensais.
Est-ce que vous avez l'impression, hein, Samuel, on peut se tutoyer. Est-ce que tu as l'impression, Samuel, que ça va faire des petits, tout ça?
J'aimerais ça. J'aimerais ça, je t'avoue, j'ai aucune idée, tu sais, je sais pas si, si mes collègues vont emboîter le pas, mais j'aimerais vraiment ça parce que je me rends compte, tu sais, quand je vois comment Marie-France Pianic, il donne tellement de temps, tellement d'énergie, parce que ça les allume tellement, parce que c'est tellement important, puis comment la communauté, elle répond aussi vraiment beaucoup, tu sais, puis je me rends compte, c'est vraiment un besoin, puis c'est vraiment triste que ces gens-là soient ostracisés. Puis, tu sais, aussi, je pense que c'est un public qui devient très fidèle. Tu sais, je pense que si on se donne la peine de traduire, on va se créer un public extraordinaire, tu sais, puis je pense que les gens qui le font pas passent à côté de ça. Mais tu sais, ça reste à voir, tu sais, c'est pas dans mon pouvoir, moi j'ai juste le pouvoir de faire mon show.
Et je me disais, Samuel aussi, en regardant, d'ailleurs je voudrais tout de suite préciser qu'il y a une vidéo hein, qui circule en ce
on
moment
a fait
beaucoup.
Notre clip, ouais.
Voilà, vous avez fait un clip avec La Révolte, ouais. Hein, qui est la chanson qu'on a entendue un peu plus tôt. Et je voudrais préciser à tous nos auditeurs que le clip, évidemment, vous allez pouvoir le voir sur notre site internet dans son intégralité. Et donc, on vous voit chanter la version qu'on a entendue.
Je suis en train de chanter la chanson, puis il y a les deux interprètes autour de moi qui ont fait le travail de l'interpréter à quatre mains, qui est assez exceptionnel. Là. Ils ont vraiment travaillé pour se synchroniser, pour toutes les deux interpréter la
Quel
même
boulot!
Chose. C'est magnifique. Puis on a tourné ça dans mon salon là, avec quatre pièces.
C'est vrai?
Ah ouais, on n'avait pas de budget pour tout. Puis c'est ça. Fait que c'est cool. Puis c'était dans le but, c'était justement d'entamer la démarche. Ouais. Puis éventuellement, là, j'ai parlé avec les interprètes, toutes les chansons de l'album vont être disponibles sur YouTube en LSQ.
Toutes les chansons, éventuellement.
Oui, éventuellement. C'est sûr que c'est un long travail, mais comme elles ont déjà fait le travail de traduction, mais ça va déjà, tu sais, comme il y a peut-être une ou deux chansons qui sont sur l'album qui sont pas dans le spectacle, fait que ça va être... C'est ça.
Est-ce qu'on peut rêver qu'en tournée, parce qu'il y a une tournée, hein, bon, là, on parle du show de Coup de cœur francophone, ça va se passer à la Sala Rossa, à Montréal.
La salle la moins accessible physiquement, désolée.
Ben oui.
J'avais vraiment pas le pouvoir là-dessus.
Non, et je suis convaincue qu'elle est désolée. Si vous lui voyez la tête à Samuel, là, c'est comme elle a toute la tristesse du monde dans les yeux. Oh, elle est pas accessible, c'est vrai, il faut monter un
grand escalier. Ah, c'est complètement pas
accessible.
Il y a comme trois étages,
non,
les toilettes sont pas accessibles, non, c'est fuck all.
C'est dommage pour cette salle-là.
C'est un
gros
problème à Montréal.
Mais ça fait rien. À un moment donné, tel que je connais Samuel, elle va se battre pour aller présenter ça dans un endroit qui sera totalement accessible. Sinon, est-ce qu'on peut imaginer dans les autres salles, parce qu'il y en a d'autres, hein, le lendemain, vous êtes à Varennes, à la Maison Saint-Louis. Le 11, vous êtes à Bedford. Le 24 novembre, à Gatineau, tout ça. Est-ce que les interprètes vont suivre?
Non.
Non.
Faut comprendre que les shows que vous venez de nommer, c'est des shows qui ont été bookés déjà depuis genre 6 mois.
Mais oui, c'est ça.
Qui a un budget de prod qui est associé à ça.
Bien sûr.
Déjà, si on y va, ces shows-là, c'est des shows qu'on fait à deux parce qu'on n'a pas le budget d'y aller avec le band. Avant que tu sais, les interprètes, c'est un travail qui mérite rémunération.
Oui.
Donc, c'est ça, j'ai de la misère à avoir assez d'argent pour amener mon band au complet.
Mm-hmm.
Fait que pour l'instant, c'est pas possible d'amener des interprètes avec nous sur la route. À Montréal, c'est une autre affaire parce qu'on n'a pas besoin de payer les déplacements ou les hôtels ou les machins. Fait que c'est sûr qu'aussitôt qu'on va jouer à Montréal, elles vont être là si elles le peuvent, mais elles ont aussi des emplois à tremplin, ces deux femmes-là.
J'imagine.
Mais ça, sauf que les tournées qu'on prévoit en ce moment pour dans un an et demi, ben là, on y pense, c'est ça.
Exactement, parce que Samuel, dans un an et demi, puis Samuel maintenant, là, j'aime mieux vous dire que ça va faire des petits, si vous me permettez l'expression, dans votre public, là. C'est sûr que ça va grossir énormément, Samuel. Si ce nom-là, bien sûr, vous dit quelque chose, oui, Samuel, on vous a connu par Granby. On vous a connu par les francs couverts.
Ouais.
Hein?
C'est fini les concours. Là.
Oui, là maintenant, ça y est, là, c'est la vie professionnelle. Tu sais, là, c'est ça. Là, c'est, là,
ça
c'est...
va, j'ai donné.
Elle a donné, qu'elle dit en baissant la tête. Pourquoi ça a été dur à ce point-là?
Ouais.
C'est vrai, ça vous a semblé pénible?
Je préfère pas en parler.
À ce point-là. OK, alors on oublie ça et on passe tout de suite à la vie professionnelle. Samuel, je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. Je rappelle qu'il faut à tout prix... que vous alliez voir Samuel en spectacle, entouré de ces deux interprètes qui vont signer en langage des signes québécois l'ensemble, toutes ces chansons. Et puis, procurez-vous ce disque. Allez vous l'acheter. Tiens, quelle bonne idée. Allez acheter un album. Voilà une idée qu'elle est bonne. Procurez-vous le disque de Samuel. Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. Vous allez où?
Qu'est-ce que t'en penses?
Parce que je considère pas. Ben en tout cas, peut-être pas au paradis.
Non, mais... ça m'intéresse pas.
Et sinon, alors, qu'est-ce qui t'intéresse? Tu veux aller où, Samuel?
Oh mon Dieu.
Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie à part la musique et l'accessibilité?
Je fais rien d'autre en ce moment. Moi, c'est avoir du plaisir, puis grandir, puis devenir une meilleure personne, puis avoir, tu sais, laisser les endroits dans un meilleur état que quand je suis arrivée. Ça, c'est comme mon but dans la vie. Si je peux genre avoir un impact positif quelque part, c'est ça qui m'allume. C'est ça que j'ai l'impression de faire aussi avec mes spectacles parce que je parle beaucoup dans mes spectacles, je fais beaucoup d'éducation. J'utilise le fait que je suis là pour échanger avec les gens d'une façon qu'on puisse tout le monde grandir. Puis c'est ça qui m'allume beaucoup. T'sais. Puis tant que ça va être le fun de même, je vais continuer à le faire. Puis après ça, je sais pas. Puis c'est ça que j'aime aussi, de pas trop savoir qu'est-ce qui s'en vient.
Mais c'est pour ça qu'on va te revoir.
Ah ouais?
Moi, je te le dis. Moi,
ouais.
Parce qu'aujourd'hui, en 2017, on a besoin de gens comme toi, Samuel.
Apparemment, mais c'est pas juste le public qui décide, c'est l'industrie aussi, puis c'est pas tout le monde qui trippe sur le fait que j'ai une grande gueule.
Ça, c'est vrai.
C'est pour ça que ça m'étonnerait que je gagne plein de trophées.
On verra.
On verra.
Okay, on s'en reparle.
OK.
tu la baby à m'attendre après mon show, après les fêtes et les photos. Tu sais mes chansons sont juste des mots. Et quand je reçois des grandes folles et leurs applaudissements, puis les gars m'offrent des cadeaux, seras-tu là au bal et au disco? Dis-moi pas que tu m'aimes juste parce qu'il faut. Ce n'est pas mon premier radio, des nouvelles faces et des numéros, et seulement le tien qui me revient en écho.
Cherche pas d'épreuves pour appuyer les midi. M'annonçant mon déclin qui viendra de ta main ou d'un appendice bien pire. Je ne chasse pas les papillons, plutôt les illusions. Tu sais, je disparaîtrai quand la lune, sera pleine. J'suivrai la marée, plus jamais les sirènes. Je ne serai plus loin. En attendant le train, je ne m'en lave pas les mains. J'assumerai tous mes crimes. Si tu brailles de ta lisse, si tu brouilles toutes les pistes, les pertes seront minimes. Je ne veux plus être celui qui t'aide à tout détruire. Je te reverrai au bord de l'abîme. Je disparaîtrai quand la lune sera pleine. Et la marée, plus jamais les sirènes. Je disparaîtrai
Corinna Surcelle aussi est fantastique. C'est une spécialiste en information et en accès au Centre d'accès équitable aux bibliothèques, autrement dit CAEB, et elle participait récemment à l'émission « Des livres plein les oreilles ». Bonjour Corinna.
Bonjour.
CAEB, Corinna oui. Surcelle, hein, c'est une chronique maintenant que vous nous proposerez à toutes les trois semaines ou à tous les mois. Aujourd'hui, je vous laisse aller, on parle de littérature canadienne francophone hors Québec.
Oui, exact. J'ai choisi ce thème parce que je trouve la littérature canadienne francophone très intéressante et très riche. Il y a 1 million de Canadiens français qui habitent hors Québec et leurs expériences sont toutes différentes parce qu'ils habitent un peu partout, dans tous les coins du pays. Alors, la culture est riche, elle est nuancée, diverse. Et c'est pour ça, et ça s'apparaît dans la littérature aussi. Donc, le premier roman, c'est Vertige, de Frédéric Garicomo.
Oui, Vertige, hein, c'est bien ça. C'est Frédéric, hein, parce qu'on dit souvent Frédéric, mais c'est Frédéric. Oui, c'est ça, Garicomo. D'ailleurs, qui est un auteur, j'ouvre une petite parenthèse, mais que j'avais reçu ici il y a quelques mois. Les auditeurs s'en souviennent, mais on n'avait pas parlé de Vertige.
Bon, il écrit beaucoup de poèmes. Il a beaucoup de recueils de poésie.
Oui.
Et Vertige, c'est son premier roman, et je pense que c'est le seul qu'il a écrit jusqu'à maintenant.
Oui, c'est ça. Non, il en a écrit un assez récemment, et malheureusement, là, le titre m'échappe, mais celui pour lequel il est venu. Non, ce ne sont pas des chansons, parce qu'il écrit aussi des chansons, mais en tout cas, je pense qu'il y en a peut-être un autre, mais parce que c'est ça, donc il est chanteur aussi. Hein. Puis c'est un poète acadien, c'est bien ça?
Oui, acadien du nord du Nouveau-Brunswick.
D'accord. Oui. De quoi s'agit-il dans ce roman?
Dans ce roman, il raconte les histoires de 8 personnages qui habitent ou qui voyagent à travers le monde. Mm-hmm. Alors, nous sommes un peu à Moncton, Montréal, New York, Paris, Tokyo, partout.
OK.
À travers ce roman, il est conçu des chapitres très courts et on apprend les différents aspects du quotidien de chacune des 8 personnages.
Mm-hmm.
Et nous sommes à la moitié des années 90 et l'histoire commence avec une explosion dans la gare de Paris où on rencontre Hope Fontaine, qui est le personnage principal de l'histoire.
OK. Hope comme espoir, hein?
Oui, exact.
C'est bien ça.
Oui. Elle est une jeune femme dont la mère, qui est astrologue, l'a convaincue de retracer un poète acadien dont elle a trouvé le recueil au Nouveau-Mexique dans le désert, parce qu'elle pense que cet homme, c'est l'homme que Hope doit marier.
Ah.
Et alors, Hope, qui a 19 ans, elle n'a rien d'autre à faire pour le moment. Elle part rencontrer ce poète acadien qui est un des 8 personnages dont on apprend l'histoire.
OK.
Donc, les 8 personnages sont très différents les uns des autres, mais ils sont tous liés entre eux par Hope. Par exemple, un des personnages, c'est le poète. Un autre, c'est l'ami du poète. Un autre encore, la mère de Hope. Et ça continue comme ça.
OK.
Oui, donc ça semble un peu bizarre au début parce que toutes les histoires sont très, très différentes, mais les vies de ces personnages convergent à la fin.
OK, d'accord.
Oui, et c'est tout que je veux dire à propos de la fin, mais c'est bon, c'est une bonne fin.
D'accord, écoutez, j'ai le titre sous les yeux du livre finalement pour lequel je l'avais invité. Ça s'appelle 12 chansons pour Evelyne, mais ce ne sont pas des chansons, il s'agit bien d'un roman. 12 chansons pour Evelyne, oui, c'est un roman et dans mon souvenir maintenant ça me revient, je m'excuse, ça ne me vient pas forcément tout de suite parce que mettons que je parle de quelques bouquins par année, mais celui-ci c'est après une rupture et cet homme-là se souvient effectivement des 12 chansons qu'il a pu écrire pour cette femme-là après cette rupture. Non. Voilà donc 12 chansons pour Evelyne, signée Frédéric Garicomo, et c'est très très beau aussi comme livre.
Oui, il est très talentueux. Écrit ses romans aussi Vertige, il se lit un peu comme la poésie.
Oui. Et puis vous arrivez avec un autre bouquin.
Oui, qui s'appelle Marjorie Chalifou, écrit par Véronique Marie Kay. L'auteur a remporté le prix Trillium, qui est un prix accordé aux auteurs ontariens.
Ah d'accord, parce que donc c'est une auteure francophone qui vit en Ontario, c'est bien
oui,
ça. Très bien.
Exact. Donc, dans cet roman, on est dans les années 50, cette mm-hmm. fois-ci, et Marjorie Chalifou est une couturière de 19 ans qui vit avec son père. Et son père n'est pas très gentil, car il ne la traite pas très bien. Mais ce qui est intéressant est que le père est un médium qui parle avec les morts, et c'est comme ça qu'il gagne son existence.
Mm-hmm.
Et Marjorie Chalifou, elle vit une vie très, très simple, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte de son amoureux,
oui.
qui, par la suite, est tué dans un accident de voiture.
Oh.
Donc, elle est seule et elle est enceinte. Et c'est les années 50.
Oui.
Alors, quand son père apprend ça, il n'est pas très content et il la pousse à trouver un époux le plus vite possible pour que personne ne s'aperçoive de sa situation. Alors, elle doit aussi se trouver un emploi pour commencer à payer le loyer. Et Marjorie commence à travailler dans un magasin à chapeaux. Et là, elle rencontre une femme qui est un peu plus âgée et qui devient son amie et qui lui change la vie un peu.
OK.
Et je ne vais pas dire trop à propos de la fin. mais... Tout finit bien.
Oui, hein, oui. Bon, bah, écoutez, c'est une dramaturge aussi. Hein,
oui.
Je voudrais rappeler son nom, Véronique Marie Kay, alors K-A-Y-E. Et son prénom, c'est Véronique Trait d'Union Marie. Hein, c'est bien ça. Donc Kay,
oui.
c'est son nom de famille. Et ce livre que vous nous présentiez, Marjorie Chalifou. Alors, ce sont deux livres qui sont disponibles au CAEB, c'est-à-dire partout sur les territoires canadiens. Hein, qui peuvent être empruntés et il existe en format Daisy, donc il peut être lu par un lecteur Daisy ou alors il peut être téléchargé sur une tablette ou sur un téléphone intelligent, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, vraiment, c'est toujours un plaisir, Corinna, de vous retrouver sur les ondes et on a tous très hâte de vous retrouver le mois prochain pour une autre chronique.
Moi aussi, merci.
Mais de rien, au revoir.
Au revoir.
Vous restez des nôtres, on se retrouve après la pause. Voilà, deuxième partie maintenant de cette émission Le National, présentée pour vous par Clotilde Seille sur les ondes de Canal M. L'émission de sport au signal animée par Kevin Breton. On posait récemment, c'était le 3 novembre dernier, cette question. Est-ce que les athlètes paralympiques sont plus vulnérables à subir des coups à la tête? Voici les questions auxquelles Kevin Breton a tenté de répondre en compagnie de ses invités, notamment Marco Dispaltro, qui a pratiqué le tennis et le rugby en fauteuil roulant, avant de briller sur la scène internationale du boccia.
Marco Dispaltro a remporté la médaille de bronze aux Jeux paralympiques de 2012. Il a un solide historique en parasport, que ce soit en rugby en fauteuil roulant ou en tennis au fauteuil roulant ou encore en boccia, un sport qu'il pratique toujours aujourd'hui. On le reçoit à l'émission et je suis bien heureux parce que c'est une personne qui a côtoyé de près le milieu du rugby en fauteuil roulant et on sait que c'est un sport assez physique. Est-ce que c'est un sport qui peut entraîner des blessures, notamment des commotions cérébrales? Bonjour Marco Dispaltro.
Allô Kevin, ça va bien?
Oui, ça va bien, merci. Peut-être pour les gens qui connaissent un petit peu moins ton parcours, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec le rugby en fauteuil roulant?
Ben moi, mon expérience avec le parasport, ça a commencé justement avec le rugby en 1993. J'ai été joueur actif jusqu'en 2002. Ensuite de ça, je me suis recyclé au coaching là, jusqu'en 2011.
Puis ben, vous avez côtoyé donc des athlètes en tant que joueur, mais également en tant qu'entraîneur et en tant que coordonnateur. Est-ce que le rugby, sa réputation de sport violent, elle est faite ou c'est un peu un mythe?
Ben, c'est un peu un mythe parce que c'est les fauteuils hein, qui absorbent le coup davantage. Là. Fait que des chutes, ils vont en avoir de temps en temps. Là. Dans un match, il va peut-être en avoir 3-4. Mais c'est vraiment le fauteuil qui absorbe la majorité de l'impact. Puis si on regarde côté blessure, bien, habituellement, ça va être des blessures aux doigts, ça va être des blessures aux épaules. Là. Fait qu'ils sont quand même assez chanceux pour l'instant avec les commotions cérébrales. Là. C'est pas monnaie courante. Là. C'est sûr que ça arrive, là, mais c'est pas monnaie courante.
Ces fauteuils roulants-là qui absorbent le choc dont vous nous avez parlé, ce qui est intéressant, c'est que c'est véritablement des chars d'assaut. Donc, c'est là qu'on peut effectivement, comme vous le dites, se coincer un doigt, par exemple, ou se faire mal. Est-ce que vous avez déjà connu des blessures quand vous étiez joueur de rugby?
Moi, j'ai été très chanceux dans ma carrière de sportif en fauteuil roulant. J'ai pas manqué encore une journée de pratique suite à des blessures. Là. Mm-hmm. Fait que, si tu y vas quand même, écoute, ça m'est arrivé des fois de me faire mal au doigt un peu, de me coincer les doigts là, ma roue puis les ailes sur le fauteuil, c'est vraiment pas plaisant, là, mais à part des petites blessures comme ça, là, il n'y a vraiment rien dans ma carrière, moi, que j'ai vécu là, qui était très difficile, là, de grandes blessures.
Qui vous ont tenu à l'écart du jeu longtemps.
Ouais, voilà.
Moi, je suis moi-même une personne en fauteuil roulant. J'ai jamais essayé le rugby parce que j'ai trop peur de l'essayer. Mais une chose dont j'ai toujours peur, en fait, quand je suis en fauteuil roulant, c'est de basculer ou de verser vers l'arrière parce qu'on est une position très vulnérable en tant que personne en fauteuil roulant, de tomber sur le dos parce que c'est plus difficile de se retenir avec ses mains, avec ses abdominaux. Est-ce qu'il y a une prévention qui est faite de ce côté-là, du côté des joueurs, pour éviter les chocs à la tête en tombant vers l'arrière?
Écoute, ça dépend toujours de ton handicap. Hein? Si nous, quand on joue au rugby, la plupart des joueurs, c'est des tétraplégiques, fait que des muscles au niveau des abdominaux, ils n'ont pas vraiment de muscles. Fait qu'habituellement, s'ils tombent par en arrière, c'est la tête qui va frapper en premier. Mm-hmm. Puis, tu sais, au rugby, il y a eu quelques joueurs dans le passé qui ont joué avec des casques, mais je pense qu'il y a encore un peu... C'est un sport un peu macho, là, puis moi, je trouve ça un peu pas nécessairement déplorable, mais j'aimerais ça qu'il y ait plus de joueurs qui jouent avec des casques, parce que c'est quand même un danger qui guette les joueurs, parce que, tu sais, si tu subis un contact par en arrière, puis tu tombes par en arrière, bien, c'est souvent la tête qui va donner contre le sol. Mm-hmm. Tu sais, comme je vous dis, au rugby, ils ont été chanceux, ils n'ont pas eu des grandes, grandes blessures, mais ça pourrait arriver, puis moi, je trouve ça un peu dommage là, qu'ils ont plus une attitude de réactive là, concernant ces choses-là.
On attend qu'un incident se passe pour réagir. Mm-hmm. Peut-être qu'éventuellement, dans le futur, on va regarder la situation des casques au rugby de la même manière qu'on regarde aujourd'hui les visières au hockey. Là, aujourd'hui, voilà. Presque tout le monde en a. On souhaite arriver là, mais en ce moment, c'est admis, mais c'est pas obligatoire de porter le casque dans les niveaux internationaux.
Non, puis c'est pas vraiment quelque chose qui est important pour eux pour l'instant, là. Fait que, mais ça, c'est suite quand même à des études qu'ils ont faites là pour essayer de voir avec les joueurs puis les différentes fédérations là, sur beaucoup de blessures relatives aux commotions cérébrales parce qu'eux travaillent étroitement avec la rugby union, fait que le rugby conventionnel, le rugby là qui joue
sur les pieds, sur les pattes,
sur les pieds, voilà. Puis ils ont une liaison très étroite avec eux, puis ils ont un protocole qui va bientôt faire son apparition là, officiellement. Là. Fait que là, c'est pas mal. Ils ont leur protocole déjà, mais il va être affiché là, dans le prochain mois là, sur leur site Internet, là, savoir comment vraiment gérer les commotions. Parce qu'au niveau... au niveau international, écoute, il y a des physios, il y a des docteurs qui sont toujours présents, mais au niveau régional, souvent, des petites compétitions...
Il n'y a pas de spécialiste.
C'est ça, voilà. Mmh.
D'ailleurs, on va en parler plus longuement avec Brian Morin dans la deuxième partie de l'émission. Puis on va suivre avec intérêt ce protocole qui va être dévoilé sur le site de la Fédération de rugby. Marco, vous m'avez également déjà parlé d'un incident particulier qui s'était passé en 2008, où heureusement, vous n'avez pas été témoin de beaucoup de blessures dans votre carrière, mais en 2008, vous avez eu une bonne frousse avec un de vos coéquipiers. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça s'est passé?
Bien, ça, c'est un jeu au rugby, le terrain. Écoute, c'est la grandeur de terrain de basketball, fait qu'il y a quand même 25 mètres. Fait que sur des longues passes, c'est arrivé, on a mis le ballon en jeu, puis il y a une longue passe qui est effectuée, puis un de nos joueurs, il a fallu qu'il revienne à contre-courant pour aller capter le ballon. Puis c'est un de nos plus petits joueurs, là, un genre de joueur là, qui était 50-55 kilos, Puis pour l'autre équipe, ben, ils s'attaquaient à lui. Là, ils ont un départ d'à peu près 15 mètres. Puis c'était trois colosses, là, des joueurs d'une 75 à 100 kilos. Puis ils l'ont vraiment frappé très fort. Puis Daniel Paradis, il a passé. C'était notre joueur. Fait qu'il s'est fait frapper. Puis il a comme volé un peu dans les airs. Puis il est tombé face première là, contre le fauteuil puis contre le sol un peu. Ça, c'est vraiment une des pires affaires que j'ai vues au rugby, mais ça arrive. Puis, tu sais, dans d'autres sports, habituellement, les joueurs qui sont les plus petits sont les plus rapides, mais au rugby, souvent, les joueurs qui sont les plus petits sont les plus vulnérables. Fait que c'est toujours quelque chose, ça, qui m'inquiète. Puis quand tu vois un joueur là, se frapper de cette façon-là, puis de voler littéralement dans les airs, puis... péter la tête contre le plancher, là, c'est...
Puis en plus, il y a toutes sortes d'obstacles autour, comme des fauteuils qu'on a dit qui étaient des véritables chars d'assaut. On aurait pu penser, par exemple, qu'il aurait pu se crever un œil, là, votre coéquipier.
Oui. Mais ça, c'est vraiment une des pires conditions que j'ai vues, parce qu'habituellement, écoute, les joueurs sont assez respectueux les uns des autres. Mais ça, tu sais, dans le feu de l'action, mais tu vois un joueur qui est en position vulnérable, fait que tu veux le frapper de toutes tes forces. Fait que c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a marqué. Puis c'est quelque chose que je trouve au rugby, étant donné la grande différence souvent entre les gabarits et le niveau de fonction, c'est quelque chose qui me stressait beaucoup là, quand j'étais entraîneur.
Votre cœur débattait.
Même là, en tant que spectateur aussi, tu veux pas voir quelqu'un se faire blesser grièvement. Là.
On parlait tantôt que... ben au moins, l'avantage que les compétitions d'envergure ont, c'est qu'ils peuvent souvent compter sur un physiothérapeute ou en tout cas un spécialiste de la santé qui est alerte pour prévenir les coups à la tête, contrairement peut-être aux événements régionaux. Dans le cas de cet incident particulier-là de votre coéquipier Daniel Paradis, vous avez été chanceux parce que vous avez quelqu'un dans votre équipe qui a tout de suite été alerté par le jeu, là.
Oui, puis ça, c'est important. Puis tu sais, avec tout ce qui se passe dans le monde là, concernant les commotions cérébrales, tu sais, même nos arbitres là sont au rugby, j'en connais plusieurs arbitres encore, puis ils regardent attentivement ça, puis s'ils voient qu'un joueur est en difficulté, soit pour une commotion cérébrale ou soit pour une autre blessure, ils vont arrêter le jeu immédiatement. Fait que je pense que les gens sont plus conscients là, des dangers qui nous guettent dans le sport, puis c'est vraiment pas comme... Moi, je me rappelle quand j'étais petit, puis je jouais au hockey, là, on parlait pas de ces trucs-là pantoute, puis c'est vraiment cool, là, que c'est rendu quelque chose, là, qu'on prend en considération, puis moi, je trouve ça... Le sport, c'est beaucoup plus sécuritaire que ce que ça l'était, puis j'espère que ça va continuer dans cette veine-là.
Oui, on est beaucoup plus attentif, mais en même temps... Le rugby en fauteuil roulant ou le basketball, par exemple, en comparaison du hockey où il y a beaucoup d'arrêts de jeu, dans le rugby, vous êtes constamment dans le feu de l'action. Ça rajoute une couche de difficulté pour détecter des symptômes.
Oui, ça c'est sûr, parce qu'au rugby, écoute, il y a beaucoup de sifflets, mais tout de suite, la balle est remise en jeu. Fait que c'est un match de rugby, c'est en principe, c'est 32 minutes, c'est 4 quarts de 8 minutes, mais un match, ça dure 1 heure et quart parce qu'il y a toujours du mouvement, puis... Ça bouge beaucoup. Fait qu'effectivement, c'est quelque chose ça, que les gens, je pense que les spécialistes sont un peu plus attentifs. Puis ils ont le pouvoir aussi les arbitres ont le pouvoir d'arrêter le jeu. Puis le délégué technique aussi, s'il voit quelque chose d'outrageux. Puis s'il y a un des spécialistes qui va voir immédiatement le délégué technique, bien, le délégué technique va pouvoir arrêter le jeu aussi. Là, s'il voit quelque chose de vraiment anormal.
Ah, donc, il y a toujours quelqu'un d'associé à chacun des matchs qui a l'œil sur ce type de blessure.
L'œil sur ce type de blessure, puis d'autres choses en particulier, mais vraiment, dans le passé, c'était plus pour voir s'il y avait des situations un peu complexes là, avec l'arbitrage, s'il y avait des problèmes avec le score, puis tout ça. Puis là, ben, une des nouvelles facettes qui est ajoutée, c'est plus la facette là, médicale là, qui... Tout le monde est un peu plus à l'affût de ça.
On l'a tous ajouté un petit peu à son cursus lors des matchs. Vous en avez parlé, Marco, de la différence de gabarit et de fonction au sein des équipes. C'est pour ça qu'en introduction, je me demandais, est-ce que les athlètes paralympiques sont plus vulnérables ou susceptibles de subir des blessures? Parce que, expliquez-nous comment ça fonctionne. Au sein d'une équipe, là, on peut se retrouver avec un colosse qui a plus ou moins un gros handicap versus quelqu'un qui a un handicap lourd dans le même match.
Oui, Fait que ça, c'est au rugby, mais ça, c'est côté classification, parce qu'au rugby, ben, tu passes une panoplie de tests quand tu commences, c'est la classification. Puis suite à la classification, ben, ils voient le niveau de force que tu as dans les bras, dans les mains, au niveau des abdominaux, puis là, ils t'attribuent un score. Fait qu'au rugby, ça va de 0,5, qui est un joueur qui est très faible. Fait que pour vous donner une idée, le joueur 0,5, il n'y aura aucune force dans les abdominaux, il n'y aura pas de force dans les triceps, il va avoir des bons biceps, puis les mains vont être essentiellement dégainées. Là, les mains ne servent pas à grand-chose. Fait que là, on parle, le .5 va ressembler un peu à ça, puis évidemment, il ne marche pas non plus. Puis le joueur 3.5, par contre, lui, va avoir toute la force au niveau des abdominaux. Il va avoir, si on regarde au rugby spécifiquement, ben, on parle d'amputés. Fait que les amputés qui sont admissibles à jouer au rugby, faut pas qu'ils aient de mains, ou s'ils ont des mains, faut que ce soit vraiment juste peut-être les jointures, des trucs comme ça.
Donc, quelqu'un qui est amputé à la jambe n'est pas éligible. Si quelqu'un seulement... OK. Parce qu'il y a toujours...
Il faut vraiment qu'il y ait des limitations au haut du corps, là, au niveau des mains surtout, parce que si tu es capable de prendre le ballon facilement avec une main, c'est sûr que tu n'es pas admissible. Mais tu peux avoir des joueurs qui leur manquent... disons, 4 doigts sur 5 sur une main, puis l'autre main, ils n'ont pas de doigts, ils n'ont pas de doigts du tout. Puis aussi au niveau des jambes, ben, ils ont des amputations aussi au niveau des jambes. Mais ça fait en sorte qu'ils sont quand même très, très forts. Puis tu sais, si tu es capable d'avoir de la force au niveau des abdominaux, puis au niveau des hanches, lors d'un contact, là, si tu peux faire des contacts vraiment percutants, parce que moi, je me rappelle quand je jouais, toi, tu n'étais pas le plus colosse. Puis moi, je suis atteint de dystrophie musculaire, fait que j'avais une bonne force au niveau des abdominaux. Fait que souvent, moi, j'étais comme 60 kilos, puis je pouvais frapper des joueurs qui étaient 100 kilos de front, puis je pouvais les mettre au sol, simplement avec ma force au niveau des abdominaux puis des hanches. Mm-hmm. Fait que quand tu prends un joueur qui, en plus, est capable de générer beaucoup de vitesse, puis qui va foncer dans un joueur qui est très limité, comme le joueur 0,5, là... Le 0,5 va voler littéralement.
Mais dans ce cas-là, ce grand écart-là, est-ce que ce serait possible de créer deux catégories de selon le pointage ou s'il n'y a pas un assez grand bassin de joueurs disponible?
C'est justement au rugby, c'est un sport qui est quand même assez spécifique, le côté handicap. Fait que le bassin de population, selon moi, ne serait pas assez élevé pour faire ça. À moins qu'un jour qu'ils commencent à accepter que les paraplégiques. Puis jouer. Fait que là, tu pourrais avoir une ligue, une super ligue, où ce que les joueurs seraient beaucoup plus forts physiquement, où il y aurait juste un minimum d'handicap, comme dans d'autres sports, comme au volleyball assis, comme au hockey sur luge. Fait que ça, tu pourrais peut-être voir le jour là-dessus, mais pour l'instant, au rugby en fauteuil roulant, moi, ce que j'aimerais voir, c'est que les joueurs qui sont amputés soient avoir un pointage encore plus haut que 3,5, disons un 4 ou un 4,5 pour limiter le nombre de joueurs amputés que tu peux avoir sur le terrain. Parce qu'au début, le rugby en fauteuil roulant a été créé pour les joueurs qui étaient tétraplégiques.
Ça permettrait de rééquilibrer un petit peu le pointage. Voilà. C'est une des solutions également, peut-être comme solution, d'interdire les coups par derrière. Vous me l'aviez mentionné hors micro. Merci beaucoup pour ces suggestions, Marco, puis nous avoir fait un aussi bon portrait de la situation. On va suivre vos activités au championnat de boccia qui va avoir lieu en Angleterre prochainement. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui, Marco.
Merci beaucoup, Kevin.
J'espère de pas tomber en amour avec toi. L'amour, ça me fait les blouses à chaque fois. Au rythme de la musique qui joue, je sens ton cœur qui bat. Je buvais ma bière tranquille, mais là, je t'entends m'appeler tout bas. J'espère de pas tomber en amour avec toi. On est bien tassé, y a du monde partout. Si je t'offre une chaise, j'ai peur d'avoir l'air fou. Si tu t'assois avec ce gars-là, rends-y son air de bœuf.
17, que la soirée finisse, je serai peut-être moins nerveux. J'espère de pas tomber en amour avec toi. C'est drôle l'effet que ça fait quand t'es un gars. Les trucs de phéromones pis de mâle alpha. Je me retourne juste pour te regarder dans la trolley urbaine. Je voudrais tellement aller te parler, mais on se connaît à peine. J'espère de pas tomber en amour avec toi. Je vois bien que t'es toute seule, tout autant que moi. Il se fait tard, tu voudrais peut-être qu'on se revoie. Je me retourne juste pour te regarder, tu me regardes aussi. Le gars assis à côté de toi s'en va, puis tu rougis. J'espère que tu tombes pas en amour avec moi. C'est l'heure de la fermeture, on baisse le son. Mon lascol, un whisky sans glaçon. Je me retourne juste pour te regarder. T'es pas là, t'es parti. Je cherche partout, je bois un coup. C'est l'histoire de ma vie. Puis je pense que je suis tombé en amour avec toi. Je pense que je suis tombé en amour avec toi.
Thank you.
L'émission Les Paractualités sur les ondes de Canal M vous permettent de vous tenir informés, de savoir tout ce qui se passe dans le milieu, moi j'aime mieux dire dans la communauté des personnes handicapées, d'est en ouest d'ailleurs, et même à l'extérieur de nos frontières. Cette semaine, nous avons retenu deux sujets. Comment ne pas réagir avec des parents qui apprennent que leur enfant est trisomique? Et puis Via Rail, qui devra accroître l'accessibilité de ces trains. On retrouve avec plaisir Hélène Denis.
Des parents de bébés trisomiques refusent la pitié. La Société canadienne de la trisomie 21 souhaite donner un ou deux cours de bienséance à ceux qui apprennent qu'un proche vient d'avoir un enfant trisomique et surtout éviter le malheureux « désolé ». C'est une nouvelle sur journalmetro.com. L'organisme lance au Canada anglais une campagne pour aider les gens à trouver le bon mot face à une telle situation. Dans une vidéo publiée en anglais sur YouTube, des trisomiques répondent eux-mêmes à la question « Que dire à des parents qui viennent d'avoir un bébé trisomique? » Beaucoup de choses en fait, sauf « Oh, je suis désolée ». La vidéo permet aussi aux participants de démontrer leur personnalité et de faire preuve d'humour. Le directeur national de l'organisme Kirk Crotter explique que la campagne vise à encourager les Canadiens à accueillir la naissance d'un bébé trisomique comme celle de tout autre enfant, dans la joie, avec des félicitations. Ed Casagrande, père de la petite Emma, 4 ans, espère que cette campagne amènera les gens à ne plus être désolés par cette condition congénitale. Le père rappelle que les trisomiques mènent une existence épanouissante, pleine d'accomplissements, et qu'il ne faut pas du tout s'attrister de leur sort ou de celui de leurs parents. Au national, Via Rail doit accroître l'accès à ses trains pour les personnes handicapées. C'est une nouvelle parue sur québec.huffingtonpost.ca. L'Office des transports du Canada, OTC, rejette les efforts de Via Rail pour tenter de limiter l'accès à ses trains aux passagers handicapés. Le transporteur résiste activement à une précédente décision rendue par l'Office imposant à Via Rail de doubler sa capacité d'accueil pour les passagers à mobilité réduite et de créer 2 places pour attacher des fauteuils roulants dans tous les trains. Cette décision faisait suite à une plainte déposée par un couple de Toronto dont les 2 membres souffrent de paralysie cérébrale et utilisent des triporteurs. Ils soutenaient que l'approche privilégiée par Via Rail les empêchait de voyager ensemble. Via Rail avait rétorqué qu'elle prévoyait plutôt installer 2 places contiguës dans l'une des 3 classes de trains voyageant sur un seul trajet. Dans une décision rendue le 1er novembre, l'Office des transports du Canada rejette l'approche de Via Rail et ordonne à la compagnie d'installer des places pour attacher les fauteuils roulants dans tous les trains à travers le pays, à défaut de quoi elle devra présenter des arguments clairs expliquant en quoi elle perçoit cette décision comme une contrainte excessive. Via Rail affirme qu'elle étudie la plus récente décision de l'Office et qu'elle ne souhaite pas commenter plus en détail pour l'instant. Martin Anderson et Mary Murphy, le couple de Toronto qui était au cœur de cette affaire, se disent encouragés par cette décision de l'Office. Mais malgré ce jugement clair et net, ils anticipent d'autres batailles.
Voilà, ainsi s'achève le National cette semaine. Je voudrais vraiment du fond du cœur remercier toute l'équipe qui rend possible cette émission. Jean-Sébastien La Liberté, Mathieu Tessier, Hélène Denis, Kevin Breton, Anne-Laure Janson, Christiane Campagna et Marc Britton. Je vais vous souhaiter une bonne semaine, à la semaine prochaine. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez réécouter tout cela sur canalm.vuesetvoix.com.